Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons pour cette nouvelle année et pour cette semaine pour ma chronique verte, la chronique verte de Benoît Guillard. J'ai fait le choix cette semaine de me rendre au nord du département, sur la commune de Villefranque, située entre Maubourguet et Castelnaudary-les-Herbasses. Et comme je suis sur la thématique de la transition écologique et de l'agroécologie, bon, j'ai souhaité aller à la rencontre d'un agriculteur qui a projeté d'entreprendre peut-être un peu différemment il y a longtemps déjà. Donc je suis chez Pierre Leb, qui est sur une exploitation agricole. Et il va d'abord se présenter et puis peut-être nous expliquer un petit peu son parcours et son exploitation. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour à tous, ravi de t'accueillir. Après mes études agricoles, un BTS agricole, je me suis installé en fermage ici à Villefranque. Voilà. Et je n'avais pas d'argent, mon père m'a aidé parce qu'il avait une pré-retraite. Et nous avons monté un petit élevage de chèvres, enfin pas si petit que ça, puisqu'on a démarré d'entrée avec 110 chèvres. Et dans ces anciens bâtiments, et progressivement, ce n'a été qu'une suite d'investissements et de péripéties. Donc c'est l'installation, c'était en 1981. Ensuite, en 85, on a monté un tunnel pour abriter les chèvres, un tunnel en plastique là, et qu'elles ont quitté en 2016 seulement. Mon neveu est arrivé en 2013 pour s'installer. Et son projet d'installation a été la construction d'un bâtiment en bois avec séchage du foin en grange, ce qui a considérablement changé la conduite du troupeau en bien. Voilà. Donc j'aurais beaucoup à dire sur le séchage en grange. Et on a de suite, un peu par obligation, dû vendre le fromage, faire le fromage et le vendre par nous-mêmes. Parce que en 80, 1980-81, une crise laitière très forte s'était emparée du sud-ouest et la laiterie de Villecomtal ne ramassait plus. Les 3A avaient mis des quotas très très forts et c'était tous les élevages vendaient leurs chèvres, quoi. C'était la catastrophe. Donc en fait, on a profité de cette crise pour s'installer et avec mesure et calcul. Donc je me suis ensuite rapidement formé à l'école de laiterie à Surgères. Et là, j'ai fait un bond en avant au niveau technique. Et j'ai pu rentrer en 83 chez des fromagers affineurs, des clients que j'ai toujours, quoi. Voilà. Donc, on est un peu spécialisé sur les expéditions. Je réalise moi-même les cagettes en bois avec un paillon de seigle. On fait des expéditions par transport frigorifique. Et bon, on a des clients importants parce qu'effectivement, on ne peut pas livrer de cette manière un restaurant, quoi. Voilà, il faut un peu de volume. Et donc, ça nous a permis de rester à la ferme, de ne faire aucun marché et de disposer de notre temps pour s'occuper des bêtes et de la production et puis des terres. Alors parlons des terres un peu. Elles étaient très difficiles, très difficiles. Et il a fallu drainer en 1984 parce que des flaques d'eau que j'avais jamais vu, des flaques de 200 mètres comme ça dans les champs. C'était assez catastrophique. Tout le monde croyait que j'allais me planter, ils n'avaient pas tort, hein. Et on a tenu bon, l'ACUMA de drainage a réalisé les travaux, et ça faisait sur 14 hectares, sachant bien que le Crédit Agricole ne voulait pas me prêter. Donc le problème s'est résolu quelques mois plus tard, mais le drainage a été fait. Et ensuite, bon, j'ai toujours apporté du fumier à mes sols. Mes terres ont changé de couleur. Elles qui étaient jaunes, elles sont devenues marron. Et on a pu passer une vitesse de plus sur le tracteur pour labourer, quoi. C'est incroyable. Donc là, c'est un témoignage vraiment réel du bienfait d'apport du fumier dans les fermes. Voilà. Alors le fumier, parlons-en un petit peu. Parce que voilà, il fallait sortir le fumier souvent du bâtiment, parce que le bâtiment était un peu étroit. Quand les barrières voulaient plus se fermer, il fallait l'enlever. Et le temps ne s'y prêtait pas, donc je le mettais en face du bâtiment. Et c'était, comme les sols sont argileux, c'était devenu une cuvette de gadous. Impossible. Alors je vais voir la chambre d'agriculture, je dis, mais vous ne pouvez pas me me faire m'aider dans le cadre d'une mise aux normes. Et non, les chèvres ne sont pas éligibles. Voilà. Et du coup, je me dis, ben, puisque ce n'est pas éligible et que je suis en fermage, je vais quand même réaliser quelque chose, essayer d'avoir un retour sur investissement, ce que les autres mises aux normes n'apportent pas. Et donc, je me suis lancé dans la méthanisation du fumier. Voilà. Le principe, c'est d'une grande simplicité. Déjà, la méthanisation se produit dans la panse de la vache ou de la chèvre. Et c'est un exemple. Donc, elle se fait à 40 degrés. Et la méthode de méthanisation du fumier, elle a été mise en place par deux professeurs français qui étaient, entre 1920 et 1960, ils étaient à Alger, à la Maison Carrée, qu'on appelle l'école d'agriculture. Leur méthode consiste à une pré-fermentation du fumier par soufflage d'air par le bas et de 2-3 jours. Voilà. Et là, le fumier, comme on apporte aux bactéries un peu d'oxygène, et le fumier va monter en température jusqu'à 60-70 degrés. C'est impressionnant. Et en paradoxe, les autres installations de méthanisation qui travaillent avec des lisiers sont obligées de chauffer avec des combustibles fossiles souvent. Donc là, le fumier s'échauffe tout seul. Ensuite, on va l'immerger complètement, ce qui ne se pratique plus en France. Ici, on l'immerge complètement. Alors le fumier qui a un taux de matière sèche de 35% à peu près, on a collecté les eaux usées, on a collecté le lactosérum, le petit lait donc de la fabrication des fromages, et tout ceci, on le tiédit pour pas le mettre glacé dans le fumier. Et ainsi, on démarre une fermentation à l'abri de l'air à 40 degrés. Voilà. Et on a une production de gaz immédiate. Et cette production de gaz, elle est 24 heures sur 24 pendant 8460 heures par an, quoi. C'est impressionnant. Alors que du photovoltaïque, on a 1000 heures par an de production. Et là, on a 8 fois plus, quoi. C'est impressionnant. L'objectif principal de la méthanisation, c'est la conservation de l'azote. Parce que, comme l'azote était... Les bactéries méthanogènes, elles démontent les molécules, on va dire tout simplement, et il se produit du gaz ammoniaque, qui est extrêmement soluble. Il est 700 fois plus soluble dans l'eau que le gaz carbonique. Donc, comme on a immergé le fumier, on obtient des ions ammonium dans cette eau, qui est noire, et accompagnée aussi de potasse, pas de phosphate, parce que le phosphate n'est pas lessivable. Et donc ces eaux noires, elles sont très riches en azote et permettent de fertiliser les céréales, les prairies, voilà. Après, il y a un gros inconvénient, c'est que ce liquide, s'il est épandu par temps chaud, ben, l'eau s'évapore, donc le gaz ammoniaque aussi. Et donc il y a quelques précautions d'usage à l'épandage. Alors pourquoi parler d'ammonium ? Parce que c'est un ion positif. Excusez-moi de faire un petit cours de chimie, hein. Mais je resterai très modeste. C'est un ion positif. Et aux agriculteurs, on leur vend des nitrates, qui sont des ions négatifs. Et alors le nitrate, il n'est pas retenu par le sol, par le complexe. Alors que l'ammonium, il est retenu par le complexe argilo-humique. Donc quand on met un digestat, un fumier ou un liquide, comme ça, dans le sol, eh ben les molécules se fixent sur le complexe argilo-humique, elles sont disponibles pendant plusieurs années. Voilà. Et la plante sait utiliser facilement cet ammonium. Alors que quand on épand un nitrate, il y a à peu près 40% de cet azote qui vient à la plante. Et le reste, c'est dans les nappes phréatiques. Et les nitrates produisent par dénitrification le protoxyde d'azote, un gaz à effet de serre extrêmement dangereux. Qu'on utilise en anesthésie, mais dangereux par rapport à l'effet de serre et à la durée de vie qu'il a dans l'atmosphère. C'est 320 fois plus effet de serre que le CO2, c'est 120 ans de présence dans l'atmosphère avant de se dégrader. C'est très toxique. Et l'agriculture est responsable à 87% des dégagements de protoxyde d'azote. Donc les agriculteurs conventionnels qui achètent ces nitrates, eh bien, voilà, une part, ils perdent leur argent parce qu'il n'y a que 40% de cet azote qui va à la plante, ils ne le savent pas. Et ensuite, ils détruisent l'environnement, donc ils détruisent toutes les conditions favorables à leur culture. Voilà, c'est nul, c'est nul comme agriculture. Et pourquoi ça ? Eh bien, parce qu'à la sortie de la guerre, d'abord c'est en 1930 que Haber avait réussi à craquer la molécule du méthane pour fabriquer de l'ammonium, de l'ammoniac. Et Bosch est arrivé et dit, ben, avec ton ammoniac, moi je sais faire des nitrates. Et pourquoi des nitrates? Pour faire des explosifs pour l'armée. Et à la sortie de la guerre, on a vu que les champs de bataille étaient florissants de végétation. Et donc, des personnes comme le général de Gaulle ont dit, ben, allez, on va mettre ces nitrates directement dans les sols. Ça va développer l'agriculture et ainsi de suite, quoi. Voilà. Et donc, ça a été ces fameuses 30 glorieuses. Et vas-y qu'on en met des nitrates plus qu'il n'en faut. Ils étaient fabriqués à Pierrefitte-Nestalas dans les Hautes-Pyrénées, à ZF qui a explosé. Bon, maintenant, je crois qu'ils sont quasiment plus fabriqués en France. Mais par contre, on en utilise toujours. Et comme la France est très timide en matière de transformation chimique, on va dire, hein, si on peut appeler ça comme ça, ils se font à l'étranger. Voilà. Alors les Russes, plutôt que, comme on ne veut pas de leur gaz, ben, en fait, ils nous font les nitrates, ils nous vendent les engrais. Donc les politiques, ils veulent faire un blocus sur le gaz, mais en fait, on achète les engrais azotés à la Russie. Donc c'est idiot aussi. Et donc si l'agriculteur aujourd'hui, un peu réfléchi, veut incider sur la politique européenne, et il faut qu'il arrête ce type d'agriculture. Il faut déjà ne plus acheter des nitrates. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais les bio, ils produisent rien, c'est catastrophique, ils peuvent pas nourrir le monde. Mais c'est complètement faux. Parce qu'un bio qui pratique la méthanisation, il a une quantité d'azote phénoménale. Et ensuite, il cultive des plantes qui fixent l'azote de l'air, tout simplement. Et donc, c'est une autre manière de travailler qui n'est pas suffisamment connue, ni développée, ni enseignée. Donc, effectivement, il peut y avoir des bio qui ne font pas des bons rendements.
Alors, chers auditeurs, je vous le rappelle, nous sommes chez Pierre Leb à Villefranche. Donc, Pierre, qui est installé depuis bien longtemps, qui est un Belge, hein, il ne le dit pas, mais au départ, c'est un Belge qui est venu s'installer dans le Madiranais pour y faire du fromage de chèvre. Et qui a une conception très claire d'une agriculture durable. Et donc, c'est pour ça que je suis ici. Donc, merci Pierre pour ce premier épisode. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un deuxième épisode avec Pierre.